L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier sur BFM Business, comme chaque samedi, 2 heures entières dédiées aux nouvelles technologies, 16h, 18h, vous le savez. Dans quelques minutes, ce sera notre dossier d'atelier. On va parler du business, de la sécurité et la biotech qui arrive dans ce domaine. Et puis notre World Tour, direction le Liban, ce sera là aussi dans quelques instants. Mais auparavant, puisque nous parlions il y a quelques minutes de transformation numérique d'Engie, on va s'intéresser à la transformation digitale d'un autre grand groupe, il s'agit de La Poste. Et c'est avec vous, Lila Megraoua.
Oui, François. Alors, cette semaine, on va s'intéresser à la transformation digitale du groupe La Poste. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Muriel Barnéou. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Muriel Barnéou, vous êtes PDG de Docapost, du groupe La Poste. Vous êtes également membre du conseil d'administration du Syntec numérique et vous présidez également le collège des éditeurs, toujours au Syntec numérique. Dites-moi un peu, Docapost, c'est l'entité, la filière numérique du groupe La Poste, c'est ça ?
Oui, on peut le dire comme ça. Bien évidemment, ça n'est pas l'alpha et l'oméga à elle seule qui permet de numériser ou de transformer une société qui pèse plus de 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui représente plus de 280 000 personnes. Néanmoins, on pourrait dire que sur ce marché-là, on sert un petit peu de front avancé ou de fer de lance, absolument.
Concrètement, que va faire Docapost ?
Docapost, c'est une société qui pèse à peu près 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4500 personnes pour la plupart sur le territoire français. Et on est une société qu'on appelle de back-office, c'est-à-dire qu'on va prendre en charge la gestion de flux, de process que les entreprises, les institutions nous confient pour des tas de raisons, soit parce qu'elles n'ont plus les compétences, soit parce qu'elles ne veulent pas investir en technologie dans ces éléments-là de leur business, elles considèrent qu'elles ont d'autres priorités. Et nous, on va gérer ces flux, par exemple la carte imaginaire, la carte Navigo des jeunes, eh bien, le STIF définit sa politique transport et nous, on va s'occuper de tout l'enrôlement et tout le back-office jusqu'au SAV qui va permettre de lancer la carte, mettre les moyens de prélèvement en place, etc., etc. Et même, parfois, corriger certaines photos que les jeunes très créatifs peuvent nous envoyer à l'occasion de leur demande d'abonnement.
Alors justement, transformation numérique du groupe La Poste, quand et comment vous avez amorcé ce virage du numérique ?
Alors c'est un grand sujet cette question que vous posez là. Je pense que l'on peut dire qu'au départ, on a vu le numérique un peu comme le grand Satan. Et quand vous regardez le cycle de vie des entreprises, hein, souvent le digital ou ces ruptures, on les voit comme quelque chose d'extrêmement dérangeant qui viennent tout à coup désintermédier, un peu ubériser, c'est comme ça qu'on va le dire aujourd'hui, nos process et nos relations. Et on l'a d'abord vu comme quelque chose dont il fallait se défendre, plus exactement. Et aujourd'hui, l'enjeu pour nous, et c'est comme ça qu'on le vit depuis quelques années, c'est de passer du risque à l'opportunité et d'en faire un véritable outil de renouvellement de nos business, de transformation interne, mais aussi et surtout de transformation de la relation qu'on a avec nos clients, voire même de diversification. Ce sont ces grandes étapes. Je peux dire qu'aujourd'hui, l'étape de s'en méfier et s'en éloigner est une étape qui est largement dépassée. Et on entre dans se transformer, transformer la relation avec nos clients, voire même se diversifier et en faire une très belle opportunité de croissance.
Justement, dans l'expérience client, quels produits, quels nouveaux services ont émergé avec le numérique ?
D'abord, des produits qui mêlent le physique et le numérique. Je crois que s'il y a une chose aussi importante à retenir de notre expérience, si on peut partager avec d'autres grands groupes, c'est le fait de ne pas opposer les canaux, de ne pas opposer tous les lieux dans lesquels nous pouvons être en relation avec nos clients. C'est en ça d'ailleurs qu'on a compris que ça n'était pas finalement un ennemi, mais c'était quelque chose qui venait d'autant nourrir et enrichir l'expérience client. Par exemple, quelque chose comme la deuxième présentation du facteur ou la présentation d'un colis sur rendez-vous. Vous voyez, c'est quelque chose qui devient possible grâce au numérique. Facteo, l'équipement de tous les facteurs en téléphone qui vont permettre de développer des offres dessus. Ce sont des choses qui vont combiner du service physique et du service numérique. Donc, il y a des choses qui sont très simples et qui sont déjà très révolutionnaires. Ensuite, je dirais que la grande nouveauté, peut-être qu'elle va paraître évidente à tout le monde, mais le numérique, ça a été pour nous une incroyable occasion de mettre en place un bureau de poste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur votre ordinateur. sur le web, sur la tablette, sur un smartphone. Aujourd'hui, vous pouvez à tout moment, en tout lieu, envoyer une lettre en ligne, imprimer votre propre timbre, affranchir, suivre un colis, et comme ça, accéder à l'ensemble des offres de l'ensemble du groupe sur un canal qui n'existait pas il y a quelques années. Ça, c'est une très, très grosse transformation qui vous permet d'en finir avec le sujet de la queue ou le sujet des horaires de fermeture de nos bureaux. Ça, c'est des choses un peu classiques en la matière, qui sont déjà derrière nous. Ce qui s'ouvre à nous maintenant, ce sont des choses qui sont encore sous la forme d'innovation, par exemple les boîtes aux lettres connectées, par exemple le Facteo, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, qui est un outil juste formidable pour rentrer en relation avec son facteur, ça c'est en tant que client, et pour la Poste, de pouvoir demander à ce facteur de faire des tas d'autres choses en complément de ce métier traditionnel dans sa relation avec ses clients. Par exemple, pouvoir se diversifier autour d'autres services, comme vous l'avez vu dans la presse, d'autres services, ceux de la vigilance, on est en période de canicule, mais aussi ceux de la livraison d'autres produits que les produits traditionnels, qui sont possibles parce que cet outil en temps réel nous permet d'être en lien et en réactivité avec une demande client.
Pour revenir sur ce produit, ce service Facteo, pour se représenter encore une fois, il s'agit d'un smartphone qui est mis à disposition du facteur et qui le mettrait en contact direct avec son client.
Oui, on peut l'imaginer comme ça. Vous savez, quand vous mettez un outil numérique entre les mains d'un employé, quel qu'il soit, voire d'un client, il se passe des choses que vous n'imaginez pas au départ. C'est aussi un des grands enseignements de cette transformation digitale. C'est cet énorme transfert de pouvoir qui passe entre les mains du client, qui tout à coup se met à exiger à peu près tout, et qui non seulement peut l'exiger, mais l'obtient. Même en tant qu'ayant droit, même en tant que contribuable, même en tant que dans une relation avec une institution, ce sont des choses qu'on arrive à obtenir et qu'on arrive à voir se transformer. Donc ça, c'est la première révolution. Et la deuxième révolution, c'est que tout à coup, quand vous faites rentrer vos salariés, vos employés dans cet univers numérique, vous vous retrouvez dans les phénomènes qu'on connaît un peu d'organigramme plat, qui est la libre porte et la libre, on va dire, liberté d'entreprendre ou d'imaginer, et où vous trouvez tout à coup des gens en capacité d'inventer des choses que vous n'aviez pas imaginées. C'est comme ça que le président Val a lancé l'année dernière un grand programme chez nous qui s'appelle 20 projets pour 2020, consistant à faire émerger de la part des équipes, donc des gens au contact des clients, des gens au contact des clients internes ou externes, des gens même entre eux, fourmillant d'idées et venant amener ces idées entrepreneuriales d'une certaine manière à un jury interne, justement pour faire foisonner. Donc un Facteo, oui, ça c'est un smartphone que le facteur peut utiliser pour ses usages personnels, ses messages personnels. Donc ça, on est dans un univers qui est compartimenté et qui va nous permettre effectivement de le mettre en relation avec ses clients. Mais par exemple, pour annoncer l'arrivée d'un paquet, pour annoncer l'arrivée d'une lettre recommandée, et qui va permettre aussi à l'entreprise de pouvoir lui passer des messages de besoins identifiés à un endroit ou à un autre d'une manière très réactive, avec surtout de la remontée d'informations. Ça, c'est extrêmement important. Quand vous avez la capillarité de la Poste et l'universalité de la Poste, la capacité que vous avez à remonter de l'information pour dire ça a bien été distribué, ça a bien été remis, Madame Dupont va bien ou Madame Dupont nécessite du point de vue des premiers éléments qu'on a recueillis, que quelqu'un repasse à la maison parce qu'elle paraît pas très bien. La remontée d'informations est aussi quelque chose d'extrêmement important et c'est ça que Facteo va permettre.
Facteo, la boîte aux lettres connectée, est-ce qu'on pourrait imaginer dans ce mouvement, cette idée d'une smart city, une ville plus intelligente, est-ce que le groupe La Poste n'aurait pas vocation également à travailler main dans la main avec les collectivités pour inventer la ville de demain?
Nous le faisons. C'est une très bonne question. Alors nous le faisons déjà, nous y participons en tout cas. D'abord, nous avons des solutions pour les villes. Aujourd'hui, au sein de DocaPost, par exemple, nous avons une solution qu'on appelle de GRC, gestion de relations citoyens, qui va permettre aux villes de rentrer en relation d'une manière extrêmement simple et réactive avec leurs citoyens. Par exemple, en signalant des encombrants directement aux services concernés par la ville. Par exemple, en suivant ses demandes administratives de manière très simple sur son smartphone ou sur sa tablette. Bon, tout ce genre de choses. Évidemment, nous accompagnons les villes dans tout ce qui va concerner plutôt la consultation électronique, hein, c'est-à-dire des formes de référendum ou de consultation publique. Et puis, au-delà de ça, nous avons au sein de la Poste une équipe qui travaille à de la e-logistique et donc à toutes ces problématiques d'organisation de la mobilité dans la ville, puisque la Poste est un des premiers entre guillemets alimenteurs, hein, qui innervent une ville de l'ensemble de ses réseaux et de sa capillarité. Donc oui, on y réfléchit. J'espère qu'on verra bientôt des choses très concrètes apparaître. Vous savez sans doute déjà qu'on a une des premières flottes décarbonées au monde, hein, puisque nous sommes leaders sur l'électrification de notre parc de voitures de livraison, de manière à travailler à la ville responsable. Mais bientôt, oui, à la ville connectée, moi je n'en doute pas, en connectant non seulement nos voitures, mais nos boîtes aux lettres, nos boîtes jaunes, tout ce qui va permettre à un moment ou à un autre, nos facteurs, comme je vous le disais, de remonter de l'information pour que la ville, on la vive mieux, qu'on ait les alertes qui vont bien sur les pics de pollution, sur les niveaux de trafic, voire même de la vigilance, si d'aventure, à un moment ou à un autre, quelque chose était visible et devait signaler une alerte. Oui, ça fait partie de la participation, je dirais, de tous les acteurs de la ville à un monde qui nous reste à inventer encore.
Eh ben, on va suivre tout ça. Muriel Barnéou, merci. Je rappelle, vous êtes PDG de DocaPost, du groupe La Poste. Merci.
Lila, merci. On revient dans une minute. Notre dossier de l'atelier, notre World Tour, c'est à suivre sur BFM Business.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Éric Le Bourlou, de la rédaction de Zéronet.com, sera avec nous dans quelques instants pour jeter un œil sur les gros titres d'actualité que vous avez pu lire cette semaine sur Zéronet. Mais auparavant, et avant notre World Tour qui va nous emmener au Liban, c'est notre dossier de l'atelier avec la biotech aujourd'hui qui investit le business de la sécurité. Et c'est avec vous, Aurore Géraud.
Oui, François, je suis aujourd'hui avec Mathias Vanoni. Mathias, bonjour.
Bonjour.
Mathias est cofondateur et CEO de BioWatch, était présent aujourd'hui du 24 au 26 juin à la Villette car il est finaliste du concours startup Hello Tomorrow Challenge. Et donc pour revenir à BioWatch, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que c'est ?
BioWatch, c'est une petite partie d'électronique qui se met à l'intérieur des bracelets des montres ou dans les boucles des montres et qui regarde la forme unique de vos veines du poignet pour vous reconnaître et débloquer des informations sensibles qu'il a stockées, comme vos mots de passe, vos informations de carte bancaire ou des clés privées.
Et donc, du coup, sur quel type de technologie s'appuie BioWatch ?
Ça s'appuie d'abord et surtout sur la reconnaissance par veine. Ça a été inventé par mon cofondateur en 1984. C'est comme les empreintes digitales ou la reconnaissance par iris. C'est simplement reconnaître les gens par la forme unique de leurs veines. Et puis ensuite, on se base sur des technologies beaucoup plus compréhensibles. C'est de la simple cryptographie, échange entre un appareil tel un iPhone et notre montre connectée. Et ça se passe par Bluetooth ou NFC.
Pourquoi le réseau sanguin plus particulièrement ? On a vu notamment que bon, l'empreinte digitale c'est classique, mais qu'on pouvait s'appuyer sur le rythme cardiaque, sur les ondes cérébrales.
Alors pour protéger des informations stockées dans une montre, c'est pas inintéressant de regarder les veines du poignet, elles sont au bon endroit. Et puis surtout, comparé aux empreintes digitales, à la reconnaissance par la face, par l'iris, la forme des veines est cachée sous la peau, elle n'est pas accessible. Et ça rend plus difficile de la falsification. Et en plus de ça, on a les veines qui sont vivantes, c'est du sang qui pulse, et ça rend encore plus compliqué la falsification. Donc pour des raisons de robustesse, les veines du poignet sont un bon candidat.
Alors moi, je suis pas du tout calée en tout ce qui est médecine ou quoi que ce soit, mais si c'est vivant, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça bouge, hein, tout simplement, ça se modifie ?
Alors on arrive à faire de la reconnaissance faciale à peu près tous les jours de manière satisfaisante, alors que notre tête évolue de bébé à un grand-père, ça ne nous empêche pas de mettre à jour les patterns. Et c'est pareil pour à peu près toutes les biométries. Même si elles évoluent, on les met à jour facilement. Mais dans le cas des veines en particulier, ça n'évolue vraiment pas très vite. Il y a simplement des quand vous vieillissez, vos muscles commencent à se relâcher, ça change un petit peu le pattern, mais vraiment lentement. Après, vous pouvez aussi avoir des tumeurs ou des malformations dans les veines, et ça c'est impactant. Mais c'est tout des choses qu'on peut mettre à jour, et puis finalement, comme la tête, ça pose pas trop de problèmes.
Est-ce qu'on peut imaginer que ce sera dans d'autres wearables, peut-être une bague, disons, connectée?
On pourrait imaginer plein de choses avec la reconnaissance par veine. Notre capteur pourrait particulièrement s'intégrer dans une ceinture et on viendrait coller son poignet pour activer la ceinture une fois et puis ensuite c'est bon. Il y a beaucoup de choses à faire. On a encore plein de choses à breveter avec mon cofondateur.
Et quel est votre public actuellement? Quel type d'entreprise vous visez?
Pour l'instant, on s'intéresse au marché des montres de luxe suisses. Nous sommes basés en Suisse et c'est vrai que c'est un marché qui, bon, d'abord est très profitable pour nous avec de belles marges, mais surtout, ça nous permet de sauver l'industrie horlogère suisse sans être prétentieux, qui est en recherche de connectivité. Et à mon sens, c'est pas de simples trackers d'activité ou de sommeil qui vont réussir à les sauver face à la concurrence américaine qui est de plus en plus agressive.
Est-ce qu'on peut imaginer que cette technologie puisse... Enfin, vous pourriez faire des partenariats avec dans le domaine de la domotique, par exemple, de la santé?
Alors, on est en train de faire des partenariats avec des spécialistes du contrôle d'accès. Prochainement, vous verrez que les portes des hôtels seront, par exemple, toutes connectées et vous pourrez les ouvrir avec votre BioWatch. Et ça, c'est qu'un exemple. On a aussi des contrats avec des fabricants de voitures pour changer les clés des voitures par ces nouvelles montres connectées. Et puis, ça y va comme ça. Les exemples sont multiples. Tous les bâtiments demandent des badges de contrôle d'accès. Et bien, tout ça pourrait être changé aussi. C'est assez infini, les possibilités.
Pourquoi le Hello Tomorrow aujourd'hui? Pourquoi la France, hein, puisque vous venez de Suisse?
Alors, Hello Tomorrow, c'est un challenge de start-up qui est ouvert au monde entier. C'est 3600 candidatures de 90 pays. Moi, je suis français, donc ça me dérange pas de venir participer à un concours à Paris. Mais effectivement, si on s'inscrit à ces concours de start-up, c'est de un pour se faire connaître, attirer l'attention de grands groupes, de partenaires, de futurs clients, mais aussi d'investisseurs, car on est toujours en recherche de financement pour accélérer le développement, grossir l'équipe, finaliser les produits. Et c'est sûr que les 100 000 francs offerts par le challenge, c'est une belle source de motivation.
Quelle est la suite pour vous, pour l'entreprise, même la suite immédiate, ou voyons plus loin?
Dans l'immédiat, on va se concentrer sur finaliser le produit qui doit encore passer d'un état de prototype un peu trop gros avec des fonctionnalités manquantes à un produit à la bonne taille qui fait tout ce qu'on attend de lui. Ça, c'est notre quotidien pour la prochaine année. Et puis ensuite, il y aura effectivement beaucoup de développements commerciaux pour prétendre à notre vision mondiale.
Ok, merci beaucoup Mathias Vanoni, qui est donc CEO de BioWatch. C'était le Focus Startup. Merci.
Merci, au revoir.
Aurore, merci. Et après donc ce dossier, place à notre World Tour, direction le Liban. Et c'est avec Lila Megraoua.
Oui, François. Alors, pour ce World Tour, on retrouve Aline Maillard, qu'on avait déjà reçue pour un World Tour à propos de l'Algérie. Aline Maillard, vous êtes responsable éditoriale du site francophone de WAMDA. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous parler aujourd'hui du Liban. Alors dites-nous un peu, est-ce que le Liban est propice au développement des start-up?
A priori, quand on regarde les infrastructures libanaises, on aurait tendance à dire que non, parce que c'est quand même un pays qui est toujours politiquement assez instable, avec des coupures d'électricité assez fréquentes, un accès Internet très très réduit, pas en termes de liberté, mais vraiment en termes techniquement d'accès Internet. Et en même temps, il se passe énormément de choses là-bas, parce que c'est finalement la partie, un peu le pays de la créativité dans le monde arabe. C'est là que les gens ont l'ouverture la plus grande à l'international. Ils ont fait des études à l'université américaine, à l'université francophone, etc. Ils ont beaucoup voyagé. Et puis, ils ont une culture de base, en fait, très entrepreneuriale depuis depuis les Phéniciens presque, pour faire un peu dans le cliché, mais voilà, donc c'est un pays qui est très très entrepreneurial, qui a cette volonté toujours d'être d'aller là où sont les opportunités. Donc c'est pour ça qu'il y a une si grande diaspora, c'est parce que les Libanais vont toujours chercher des opportunités et essayer de faire du business là où ils peuvent.
Est-ce que le gouvernement soutient, essaye de pousser cet esprit d'entreprise, ces entrepreneurs?
Alors, ça, effectivement, le gouvernement s'est mis à soutenir l'entrepreneuriat assez récemment. Et là, depuis la dernière année, on voit tout d'un coup le gouvernement qui s'implique en soutenant la création d'un Digital District, ils appellent ça, avec un incubateur, avec un coworking space, plein d'initiatives comme ça pour les startups, avec aussi une circulaire qui a été passée pour aider les banques à investir dans les startups, avec aussi une loi qui a été passée il y a pas très longtemps justement pour faciliter l'accès à Internet. Les prix ont été, je crois, divisés par trois de l'accès à Internet, ce qui prouve qu'il y a quelque chose qui allait pas très bien avant, mais bon, passons. Donc là, voilà, c'est fait. Effectivement, le gouvernement commence à s'intéresser à ce qui se passe et voit qu'il y a une véritable intérêt pour le pays.
Est-ce que cet écosystème se structure autour peut-être d'incubateurs, d'accélérateurs, d'événements organisés un peu type Startup Weekend ?
Alors, il y a des événements qui sont organisés comme les Startup Weekend. C'est heureusement, je crois qu'on peut le dire, on a pratiquement partout maintenant. Après, c'est vrai que c'est pas trop centralisé autour d'une organisation, d'un événement. Il y a eu, il y a un an et demi, je crois, un accélérateur qui avait pas mal joué le rôle comme ça de place centrale. Malheureusement, ils ont fermé pour des raisons juste internes. Et depuis, ben voilà, on a cet incubateur gouvernemental qui commence à finalement être accepté, mais c'est pas encore vraiment le haut lieu de l'entrepreneuriat. Et puis, voilà, il y a des nouveaux espaces de coworking aussi qui ouvrent, comme Alt City, par exemple, 961 aussi qui vient d'ouvrir. Donc, voilà, il y a plusieurs lieux, mais il n'y a pas vraiment une entité qui se détache du lot.
Est-ce que de ce que vous observez, est-ce qu'il y a un secteur parmi les startups, est-ce qu'il y a un secteur qui est dominant? Est-ce que par exemple l'e-commerce, est-ce qu'il y a pas mal de start-up qui ont un focus e-commerce ou peut-être big data ou que sais-je?
Alors de façon assez surprenante, il n'y a pas vraiment de start-up qui ressortent dans le e-commerce, dans les petites annonces, tout ce genre de choses qui d'habitude font que les gens se mettent à Internet, tout simplement parce que le pays n'est pas très grand, donc c'est 4 millions d'habitants, et donc finalement les gens ont préféré s'intéresser soit vraiment à de la tech, de l'innovation destinée à un public plutôt occidental, comme par exemple Instabit, qui est un peu le chouchou des Libanais, qui est en fait une wearable device qui permet d'avoir plein d'informations sur son rythme cardiaque et ses performances lorsqu'on nage. Donc c'est quelque chose qui se met sur les lunettes de plongée. Et puis après, de l'autre côté, on va plutôt avoir des choses qui vont, des produits et services régionaux dans tout ce qui est création de contenu. Parce que, comme je l'ai dit, le Liban, c'est vraiment là où le contenu se crée, où la créativité est au Moyen-Orient. Et donc, par exemple, on va avoir un site de crowdfunding qui s'appelle Zoomal, qui est vraiment le site de toute la région. On va avoir Diwani, qui est un groupe un pure player de l'information, qui vient d'ailleurs d'être racheté par Webedia, je crois, en France. C'est surtout ça, c'est vraiment l'innovation très, très pointue, ou le contenu.
Est-ce que finalement, vous diriez que c'est un écosystème mature ou en passe de le devenir? Qu'est-ce qui manquerait pour que ce soit mature?
Tellement de choses. C'est clairement une scène start-up qui grandit à l'heure actuelle. Il manque pas mal de choses. Il manque plus d'infrastructures techniques pour faciliter le travail, plus de liens avec la diaspora. On est une très forte diaspora libanaise qui n'est pas encore totalement impliqué dans ce qui se passe et qui pourrait vraiment permettre d'apporter à la fois des connaissances techniques, pratiques, cette mentalité start-up. dont les gens ont besoin pour vraiment penser en dehors de la boîte, s'ouvrir, se bouger, etc. Donc c'est vraiment plutôt des choses comme ça, parce que tout ce qui est formation académique, ils les ont déjà.
On va suivre tout ça. Aline Maillard, je rappelle, vous êtes responsable éditoriale du site francophone de WAMDA. Merci.
Lila Megrawa, merci. On revient dans un instant, la suite de l'atelier, direction la rédaction de Zeronet.com. Et puis juste après, ce sera le crash test d'Antoine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Encore une petite demi-heure à passer ensemble. Le crash test d'Antoine tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, direction la rédaction de Zeronet.com. Comme chaque samedi, il est avec nous. C'est Éric Le Bourlou, le rédacteur en chef du Pôle Actu. Bonjour Éric.
Bonjour.
Éric Le Bourlou qui va nous commenter les gros titres d'actualité que vous avez pu lire cette semaine sur Zeronet. Et on va commencer par Uber Pop. Uber Pop suspendu en France.
Eh oui.
On a l'impression que la boîte américaine n'avait pas trop le choix, n'avait plus le choix. Hein,
non, effectivement, ça devenait un petit peu compliqué pour Uber de poursuivre Uber Pop après ce qui s'est passé. Hein, on s'en rappelle après la colère des taxis les réclamations du gouvernement qui a effectivement rappelé que cette application était interdite.
Et puis la mise en examen des deux dirigeants français.
Et la mise en examen des deux dirigeants français d'Uber. qui sont passés par la garde à vue cette semaine. Donc c'est vrai que là, en gros, il n'y avait plus trop le choix et Uber a décidé de suspendre le service, donc dans une logique d'apaisement, disent-ils, avec les autorités françaises, aussi avec les taxis évidemment. Uber Pop ne sera plus fonctionnel. On rappelle que Uber Pop, c'est la version low cost du service d'Uber. On peut y accéder par la même application, mais ça permet en fait à des chauffeurs non professionnels d'utiliser leur voiture pour transporter des gens et se faire un peu d'argent au passage.
Voilà. Ça veut pas dire que tout le service Uber s'arrête. Hein, ce n'est que donc Uber Pop, mais Uber X qui sont des VTC, on va dire professionnels, ça continue. Mmh. Je ne sais pas si Uber Pool, qui est le service en fait où on peut être plusieurs pour la même course, se poursuit aussi. Je pense aussi.
Oui, effectivement. Mais je suis pas sûr qu'il soit partout disponible. Mais effectivement, c'est Uber Pop, c'est Uber Pop que visaient les taxis de toute façon.
Dans le collimateur,
puisque effectivement Uber X, ce sont des chauffeurs professionnels et c'est beaucoup plus cher que Uber Pop, évidemment.
Alors, est-ce que la bataille est d'ores et déjà perdue pour Uber concernant Uber Pop, ou est-ce que Uber est en train de fourbir ses armes pour après
éventuellement proposer un nouveau service ça pourrait être aussi une option. On sait que Uber Pop est une spécificité européenne. Hein. C'est pas un service qui existe aux États-Unis. Donc on verra bien. Peut-être qu'Uber va arriver avec une nouvelle idée pour faire du partage de véhicules. On ne sait jamais.
Parce qu'on sait que chez Uber, ils ont l'air d'être têtus quand même. Hein, et
Ils n'ont pas dit sans doute leur dernier mot.
Ils n'ont pas dit leur dernier mot. On verra ça, bien évidemment. On va parler aussi d'Apple cette semaine. Apple qui a enfin lâché son service musical d'abonnement en streaming.
Eh oui.
Eh bien voilà. Spotify, il y a Deezer, il y a Qobuz, il y en a d'autres. Et maintenant, il faut compter aussi sur Apple Music.
Exactement. C'était lancé le 30 juin avec iOS 8.4, la nouvelle version dont c'était la seule nouveauté en fait. Apple Music est donc maintenant disponible. Vous pouvez tous l'essayer si vous avez un iPhone ou un PC avec iTunes, parce que ça marche aussi de façon,
un ordinateur, bien sûr,
avec iTunes. Donc on a pu jouer avec Apple Music. On a même beaucoup joué avec, puisqu'on a effectivement en plus 3 mois gratuits. Donc pour tous les gens qui veulent essayer, vous pouvez y aller pendant 3 mois, puis après vous désabonner. Hein, c'est assez facile.
Mais comme avec Eric, on adore la musique. Et ben on a testé.
On a comparé aussi avec ce que faisait la concurrence, notamment Spotify, qui est le plus gros concurrent d'Apple Music aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a été, de mon côté, j'étais un petit peu déçu, pas tant en fait par l'offre, qui est à peu près la même que celle de Spotify ou de Deezer, même sur l'offre tarifaire, c'est plutôt intéressant puisqu'on a le droit à une offre à 15 € à peu près pour 6 personnes, jusqu'à 6 personnes, c'est assez intéressant. Mais on a plutôt été déçu par l'ergonomie générale du service.
C'est un peu fouillis, un peu la pagaille quand même.
C'est un peu la pagaille.
Il
y a beaucoup de choses, c'est un peu la pagaille. On a du mal en fait à retrouver ses petits quand on utilise cette application, surtout quand on est habitué à une autre application comme Deezer ou Spotify, qui sont finalement mieux conçues. Alors peut-être que c'est l'expérience, le fait que ça fait déjà des années qu'ils travaillent sur ce genre de service et qu'Apple débarque, mais on est surpris en fait de voir qu'Apple, qui est pourtant a priori le maître de l'ergonomie le maître de la facilité,
de la simplicité,
Ouais. Faire avoir fait une interface aussi en fait compliquée. C'est pas facile, c'est pas intuitif à utiliser, c'est pas si pratique que ça. Et en fait, on s'y perd pour plein de raisons. Il y a plein d'options qui sont un petit peu cachées. On a du mal à retrouver ces morceaux hors connexion, par exemple. Voilà.
Une playlist, c'est compliqué.
Créer une playlist, c'est pas facile non plus. Alors, il y a des bonnes surprises aussi. Hein. C'est vrai que, alors, ils ont aussi lancé une radio. Alors, une radio à l'ancienne, quoi. Une radio pas à la demande, une vraie radio.
Qui marche 24 heures sur 24 avec des DJ, des animateurs,
exactement.
Etc.
Mais alors, cette radio, elle aussi, est un petit peu critiquée puisque cette radio, en fait, elle a beau marcher 24 heures sur 24, ils ont pas un staff énorme. Donc, elle rediffuse énormément de contenu dès les premiers jours. Alors, ça déplaît à certains qui voudraient avoir une programmation H24, donc
comme une vraie radio.
Et là, effectivement, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de rediffusions déjà sur Beats One, et donc voilà. On verra bien si cette radio-là va décoller. Il y a un autre service aussi qui s'appelle Connect, qui est un peu un retour en fait de Ping, hein, ce réseau social. Et finalement, c'est quasiment la même chose, puisque ça permet aux artistes qui veulent bien participer de mettre des contenus, des vidéos, des petits posts, etc. Mais en fait, c'est un petit peu fermé sur lui-même. On se demande si voilà, ça va vraiment décoller maintenant qu'il y a tellement de plateformes comme Facebook, comme Bandcamp, etc., qui sont aussi intéressantes. On se demande si Connect, qui est très minimaliste, va pouvoir décoller, quoi.
Voilà. Bon point en revanche concernant les radios thématiques, qui je trouve sont de très bonne qualité. Il y a une bonne programmation derrière ces radios. Par exemple, vous avez des radios pop, des radios rock, des thématiques comme ça. Il y a même une radio barbecue. Je trouvais ça très drôle.
C'est vrai.
Franchement, il y a des thématiques assez drôles. Et en général, les procs sont plutôt pas mal.
Ouais. Voilà. Et puis aussi un bon point en fait pour quelque chose qui est assez essentiel. On se demandait un petit peu si ça allait être aussi bon le son que Spotify ou Deezer. En l'occurrence, pour avoir essayé en comparaison de Spotify notamment, le son, il est excellent. En fait, il est plus ample, on dirait, que le son de haute qualité de Spotify. Donc, c'est plutôt une bonne surprise du côté du son.
Très bien, on enchaîne avec Windows maintenant. Vous savez que l'été va être chaud pour tous les possesseurs de PC, puisque Windows 10 sera lâché dans la nature le 29 juillet. Mais bon, lâché, pas pour tout le monde visiblement.
Eh oui, c'est un petit peu, on s'attendait tous à pouvoir télécharger la nouvelle version de Windows que tout le monde attend, évidemment, puisque ceux qui ne sont pas passés à Windows 8, il n'y en a pas beaucoup à l'attendre depuis longtemps, hein, depuis Windows 7. Eh bien, effectivement, Microsoft a annoncé que tous les gens n'auraient peut-être pas une mise à jour vers Windows 10 le 29 juillet. En gros, il faut réserver son Windows via une petite icône dans son Windows 7 ou son Windows 8. Et les gens qui, ce sera par ordre de priorité, c'est-à-dire que si vous l'avez réservé tout de suite, vous l'aurez rapidement, mais sinon, vous pourrez attendre peut-être quelques semaines avant de pouvoir télécharger la version et l'avoir. En fait, c'est vrai que Microsoft veut très très vite faire passer tout le monde à Windows 10, et ça va être un petit peu compliqué d'un point de vue
téléchargement, logistique, de serveurs, etc. Parce que si on télécharge tous en même temps, tout explose, quoi.
Exactement. Donc effectivement, ils ont besoin de planifier une sortie en fait sur plusieurs semaines pour que ce soit un petit peu plus fluide. Mais ça va évidemment un peu décevoir les gens qui souhaitaient très rapidement se débarrasser par exemple de Windows 8 et qui ne leur plaît pas forcément.
Voilà, mais bon, surveillez votre PC, il vous indiquera tout ça, bien sûr.
Oui.
On enchaîne avec un salon qui s'est déroulé ces derniers jours à Lyon, un salon qui d'année en année s'étoffe, prend de l'ampleur. C'est le salon InnoRobot, un salon qui, comme son nom l'indique, est dédié aux robots, Eric.
C'est vrai que c'est vraiment un salon important désormais pour la robotique à l'échelle européenne, hein, même mondiale, puisqu'il y a de plus en plus d'exposants qui viennent présenter leurs robots des États-Unis, d'Asie, du Japon, le pays de la robotique s'il y en a un. Et effectivement, on a pu voir à InnoRobot plein de robots différents. Alors InnoRobot, c'est aussi beaucoup de robots industriels, hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent présenter leurs solutions pour les usines, pour les industries, mais il y a aussi des robots qui sont bien plus, on va dire, grand public. On peut parler par exemple d'un robot qui nous a bien fait rire quand on s'est baladé dans les allées du salon. C'est un robot en fait pot de fleurs qui s'appelle Gaïa, et ce robot, vous plantez une fleur dedans et il va déplacer votre plante en fonction de ses besoins, si elle a besoin de plus de lumière.
En fait, c'est un pot à roulettes,
tout à fait. Et alors ça, c'est assez surprenant. On peut se demander si vraiment on va vraiment s'acheter ça. Hein. On peut se le demander. Mais en tout cas, on voit que la robotique maintenant, ça devient, s'empare de tout quoi, y compris de vos plantes. On a aussi vu un truc qui nous a beaucoup fait rire, qui aura sans doute plus de succès d'ailleurs que ce robot pot de fleurs, parce que c'est plutôt pour les enfants, mais c'est très intelligent. Ça s'appelle Mecha Monsters et c'est un petit robot qui a un peu une tête d'araignée, et avec lequel vous pouvez combattre d'autres robots via votre smartphone. Donc vous dirigez votre robot avec votre smartphone et vous attaquez le robot d'en face. Donc ça, pour Noël et pour les enfants, je pense que ça peut faire un beau carton.
Voilà. Alors pour tous ces projets sont en crowdfunding, etc. Voilà, on en est au balbutiement, mais c'était très sympa.
A priori, ce serait pour l'année prochaine si le crowdfunding se passe bien pour Mecha Monsters.
Voilà. Zéronet TV qui était d'ailleurs à InnoRobot. Et si vous êtes intéressé par l'actualité des robots, je vous invite à aller sur zeronettv.com avec une émission de 30 minutes qui a été réalisée depuis là-bas où on a des invités prestigieux dédiés aux robots, notamment Bruno Bonnel et la directrice de ce salon, qui nous explique un petit peu les tendances. Le seul truc qu'on peut regretter concernant InnoRobot, c'est que il manque malgré tout les grands acteurs américains de la robotique. Ouais. Les DARPA, les Boston Dynamics ne sont pas là.
Exactement, alors Google.
Google. Quand on voit ce que fait Boston Dynamics et leur chien là, qui est incroyable, on se dit que c'est dommage de ne pas les avoir à Lyon.
C'est vrai.
Mais c'est vrai que des États-Unis, Lyon paraît un petit peu trop loin et un petit peu petit, mais c'est bien dommage.
Pour la prochaine fois, on verra bien.
Peut-être. On va terminer par un virus made in France qui vient d'arriver et qui s'appelle Dino.
Eh oui, alors c'est le dernier né en fait d'une série de malware qui a été créé par les espions français sans doute. Hein, on n'en est pas sûr, mais il y a de grandes chances. Hein. Dino est en fait un logiciel espion qui vient s'installer sur une machine, un PC par exemple, et qui va pouvoir exfiltrer des fichiers qui se trouvent dans ce PC. Alors typiquement, les espions utilisent ça quand ils ont besoin, quand ils trouvent une cible et que ils ont besoin de récupérer certains fichiers compromettants. Ils utilisent ce logiciel-là. Et normalement, en vrai, il ne devait pas être découvert, mais c'est une société de sécurité qui l'a découvert. Et vu son code, vu ce qui est écrit dans le code, on est sûr, quasiment sûr, que c'est un logiciel qui a été créé par un État. Et il y a de grandes chances que ce soit la France. Donc, effectivement, on parle beaucoup de la NSA qui espionne tout le monde, mais la France aussi a ses logiciels espions. La France aussi va à droite à gauche pour infecter des machines et récupérer des données confidentielles, évidemment.
Donc on n'est pas plus clean que les autres.
On n'est pas vraiment plus clean que les autres, non.
Merci beaucoup Éric Le Bourlot. Éric Le Bourlot, rédacteur en chef du Pôle Actu de Zéronet.com, premier site d'actu high-tech en France. On revient dans un instant pour terminer cet atelier numérique avec entre autres le crash test d'Antoine. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Merci d'être toujours avec nous pour cet atelier numérique, un atelier qui touche à sa fin. Dans un instant, le crash test avec Antoine, mais auparavant, encore un rendez-vous depuis l'Asie, c'est le best-of du Silicon Zango, et c'est avec vous, Renaud-Edouard Barrault.
L'atelier numérique sur BFM Business, best-of.
Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs de l'atelier numérique sur BFM Business. Oui, je sais, il y a beaucoup de liaisons dans ce début de phrase. Et bienvenue dans ce Silicon Chongo de l'année bellante. À ce propos, puisque je parle d'ongulés, j'en profite pour vous annoncer le sujet de cette semaine. Ce sera les bêtes, les animaux, quoi. Oui, je vais faire une sorte de 30 millions d'amis sans Mabrouk. Alors déjà, j'ai précisé qui est Mabrouk, parce que c'est une question que me poseront les plus jeunes. C'était un berger allemand qui avait la particularité d'être très bien dressé et d'être l'icône de cette émission au générique sifflé. Bref, voilà quelques mots pour justifier l'appellation Chongguo. On va commencer par animal. Cela se dit Dongwu. Mon ami Google Translate me dit que le premier sinogramme signifierait mouvement, tandis que le second aurait comme sens chose. L'animal est une chose en mouvement ? Oui, non taxe. Ce sont deux sinogrammes que l'on retrouve aussi quand on veut utiliser le mot bestiaire, qui, je dois le rappeler parce que j'ai regardé la définition, parce que je ne le savais pas, est un recueil de textes illustrés sur les animaux, selon le site l'internaute. Le bestiaire se dit « Dong Wu Yu Yan ». Yu Yan, c'est la fable qui se compose de Yu, la résidence, et de Yan, le discours. Oui, je pense qu'effectivement, il serait temps que des spécialistes aident le moteur de recherche à optimiser quelque peu ses traductions. Et maintenant, bestial, c'est show. Ce qui donnerait yu, yu show, feng ke, sene, sheng dan, ni, sheng feng ge, pour la traduction de deux points, ouvrez les guillemets, avec un feng bestial, sen, Saint-Denis style. Vous cherchez encore le sujet, je pense. Alors certains se disent, en particulier Olivier Schimpf, cofondateur et président de Rapro, ah, il va nous parler de l'initiative de réalité augmentée Neobir Pocket Zoo éditée à Shanghai. Oui, mais rapidement, hein. C'est un dispositif qui comprend 96 cartes avec un dessin d'animal sur chacune de ces cartes. Et quand on place un téléphone doté de l'application Neobir devant, l'animal sort de la carte et s'anime. Et puis aussi, il y a le nom en chinois et le nom en anglais de la bébête. Mais bon, à part ça, j'ai pas grand chose d'autre à dire. En fait, non, ce n'est pas cela le sujet. Quand j'ai réfléchi très vite, hein, rassurez-vous, sur la thématique que j'avais envie d'aborder pour ce silicone, j'avais hésité avec mariage. Alors, mariage, c'est Hunyin. Fiançailles, c'est Ding Hun. Vous allez me dire que les deux thématiques sont éloignées. Oh, animal, mariage, alors parlons plutôt d'appariement qui se dit ici Pipei. Alors quand je dis ici, ce n'est pas pour désigner Shanghai, car je ne sais pas ce que donne Pipei en shanghaïen. Non, le ici désigne évidemment la Chine. Donc, pourquoi appariement d'animaux? Parce qu'il y a peu a eu lieu la plus grande cérémonie de mariage d'animaux à Beijing. En tout cas, selon le communiqué de presse que je crois, comme à chaque fois. Le 12 avril dernier, 21 couples de bestiaux se sont rejoints, patte dans la patte. C'était plutôt orienté chien que chat ou cochon, d'après la photo que j'ai pu admirer. Et selon l'organisateur de la cérémonie, les chiens se sont échangés leurs vœux, je suppose, avec des propriétaires adeptes de la ventriloquie, et ils se sont aussi échangés les alliances. Ouais. Le sponsor a même réussi à obliger sous la menace, je suppose, le directeur de l'industrie nationale du mariage, excusez du peu, à établir l'alliance des entreprises du mariage d'animaux. Ah, il est trop fort ce Chang Chongshan, le patron de SmackTalk. Alors que fait cette entreprise? Elle a développé une application mobile pour apparier les animaux, enfin en tout cas aider. C'est une sorte de Tinder pour animaux ou de Grindr en fonction de l'orientation sexuelle des animaux en question. SmackTalk se définit comme un logiciel de contact visuel et sonore pour animaux. Finalement, quel dommage que ce ne soit pas totalement intégré dans la messagerie instantanée préférée des Chinois. Parce que bon, oui, on peut partager les photos sur Weibo et tout ça, mais j'imagine très bien les chiens en train de laisser des messages vocaux à leur promise et baver lamentablement sur le microphone du téléphone de leur proprio ventriloque. Je pense que je vais aller en parler à Tencent, vous savez, Tencent Gong Yu Xian Gong Se, mais je vous en parlerai plus tard de celui-là quand j'arriverai à le prononcer correctement, et à la semaine prochaine pour un prochain Silicone Chongguo.
Merci Renaud, et place maintenant au crash test d'Antoine en ce samedi 4 juillet dans cet atelier numérique. Antoine, nous allons parler de dépôt du Charolais, c'est votre point de départ
et oui.
De ce crash test.
Et oui, je vais vous parler d'un endroit qui a compté énormément dans la vie de beaucoup de gens pendant des années, qui est en train de disparaître et dont... heureusement, quand même, d'une certaine manière, la trace est conservée. Et si cette trace est accessible, c'est grâce à la toile. Parce que vous comprenez, cet endroit qui va disparaître, s'il n'y avait pas le web, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, s'il n'y avait pas les forums pour échanger des souvenirs à propos de cet endroit, eh bien, il serait confiné, si on peut dire, peut-être dans un ou deux livres ouais. qui en parleraient, qu'on retrouverait dans des bibliothèques. Ce serait très très bien, hein, bien sûr. C'est très important de conserver la connaissance de cette manière-là. Mais finalement, la mémoire des lieux, grâce au web, s'organise de manière un petit peu différente. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ce dépôt du Charolais? Eh bien, ce dépôt du Charolais, c'est en fait un pont tournant.
C'est pas une boucherie?
Pas du tout. C'est boulevard de Bercy, à Paris, tout près de la gare de Lyon. C'est un pont tournant. Qui date du 19e siècle, qui était accompagné de bâtiments extrêmement importants et qui était destiné à conserver les locomotives et à les orienter à chaque fois qu'un
D'accord.
train
C'était un
démarrait.
Peu un garage à locomotives.
Une sorte de garage à locomotives.
Qui pouvait tourner pour après les mettre sur le bon rail.
En fait, si vous voulez, vous avez disposé en étoile autour du pont tournant, vous avez plein de hangars.
Ouais.
Et donc, lorsqu'une locomotive a vocation à partir, eh bien, le pont tournant va se placer devant le hangar en question.
Et voilà.
Puis là, la locomotive se met en marche. Alors, donc, ce pont tournant, vous avez la mémoire, je dirais, de ces systèmes qui étaient des systèmes qui existaient dans tous les dépôts importants de chemin de fer. La caractéristique de celui du Charolais, c'est qu'évidemment, il est en plein centre de Paris. Donc, c'est tout à fait intéressant. Et il y a énormément de gens qui, dans leur à l'époque où il n'y avait pas la télévision, internet, etc., il y avait des gamins qui allaient boulevard de Bercy et qui allaient regarder les locomotives manœuvrer dans ce dépôt. C'était tout à fait fascinant.
Oui, comme aujourd'hui, on va à proximité des aéroports.
Exactement. Alors, la trace de ces dépôts, vous allez les trouver notamment sur un site qui s'appelle locomotive au pluriel .free.fr et sur lequel on voit justement des photos tout à fait belles hein, de locomotives sur le pont tournant du Charolais. C'est tout à fait intéressant. Et alors d'ailleurs, il y a dedans l'explication de ce qu'était toute la vie dans ces dépôts, parce que il y avait le pont, mais il y avait tous les gens qui travaillaient autour. Figurez-vous qu'il y avait 4 grands services qui constituaient un dépôt. Il y avait le service mouvement qui fournit les locomotives et qui les définit quelle locomotive va être nécessaire. Il y avait le service intérieur qui veillait à la préparation et au bon état de marche des locomotives. Il y avait le service entretien qui réparait les locomotives. Et puis il y avait le service général qui s'occupait du fonctionnement du dépôt. Donc c'est un dépôt comme ça, c'était vraiment c'était presque une entreprise. Hein, mm-hmm. C'est tout à fait étonnant. Alors, on voit donc ensuite dans les forums, il y a notamment un forum qui s'appelle cheminot.com qui prend des photos. Donc là, on voit une photo qui date de juin 2014 avec comme légende « Dans le cadre de la régénération des postes d'aiguillage de la gare de Lyon, voilà ce qui reste du dépôt du Charolais. Ça va être déposé, le poste du dépôt va être supprimé. Voilà, il y a un commentaire un peu nostalgique de quelqu'un qui met à côté... Vu les constructions à ras des voies, ça en dit long sur l'avenir du secteur. La fosse du pont tournant est coupée en deux, donc je suis pas allé voir évidemment l'état des lieux depuis ces postes. Mais enfin, il y a tout de même une photo dans laquelle on voit bien que le pont tournant il a globalement disparu. Maintenant, il y a un rail qui lui passe dessus. Mmh. Les bâtiments ont disparu, on construit des maisons, ce qui est très bien parce qu'il faut quand même qu'on se loge. Mais donc c'est quelque chose de évidemment complètement différent. Alors, le problème, c'est que sur Internet, il n'y a pas seulement la trace du dépôt du Charolais, mais il y a aussi quelqu'un qui est en train de faire un travail extraordinaire qu'il a posté sur Internet. C'est quelqu'un qui est en train de faire une reproduction complète du dépôt du Charolais à l'échelle 1/43e.
Donc une maquette.
Et cette maquette, vous pouvez la voir fonctionner sur YouTube, et vous avez des photos aussi, vous avez une page Facebook... D'accord. Qui est très intéressante. Donc vous voyez, c'est toujours dans cette idée de vie du site du site physique qui est en train de disparaître sur la toile. Mm-hmm. Eh bien, il y a aussi sur les réseaux sociaux et sur YouTube la vie non pas du lieu physique, mais la vie de la maquette qui est en train d'être construite pour le pérenniser. Et donc
c'est un particulier qui fait ça ?
C'est apparemment une équipe d'ingénieurs. Ce sont des spécialistes. Hein. On nous dit sur la page Facebook, voici les photos de cette réalisation en cours à l'échelle O. Donc ce qu'on appelle l'échelle O, c'est l'échelle en fait 1/43e. Donc c'est l'échelle, vous voyez, c'est pas l'échelle habituelle des trains électriques, c'est plutôt l'échelle classique des petites voitures.
D'accord, donc c'est plus petit en fait.
Plus gros.
Ah oui, c'est plus gros.
C'est plus gros. D'accord. Mais il existe des trains quand même à l'échelle O, mais c'est pas les plus répandus. Mmh. Mais du coup, ça va faire une maquette quand même
assez imposante.
Ça va faire une maquette assez imposante. Et donc la maquette en question mesurera quand même 18,58 m sur 6. Donc vous voyez, c'est quand même une vraie œuvre. Ça va être la seule maquette à l'échelle O au monde parfaitement à l'échelle. Ils ont travaillé directement sur plan SNCF. Ce qui est quand même...
Ils ont retrouvé les plans.
Absolument.
Ah ouais. Hein,
donc c'est quand même très très intéressant. Ils ont construit les matériaux employés par la... Ils ont utilisé, pardon, les matériaux employés par la SNCF. Hein, et donc... c'est purement ferroviaire. Ils vont pas forcément mettre des dames avec des paniers qui passent, etc.
Enfin, oui, il n'y aura pas de décor.
Mais il va y avoir... toute la reproduction du système avec les 22 000 traverses sur lesquelles reposaient les voies qui sont découpées à la machine à bois et donc il y a tout le système qui va être fonctionnel avec tous les signaux lumineux, tous les caténaires, voilà. Et donc ce lieu qui est en train de disparaître, qui a presque fini de disparaître, eh bien vous pouvez au moins aller le voir aujourd'hui commencer à fonctionner sur YouTube et il y a plein de gens à travers ces forums, à travers ces maquettes qui perpétuent sa mémoire, c'est assez intéressant.
Il y a toujours donc ces dingues, ces passionnés de trains qui ont des reproductions, des circuits chez eux.
Bien sûr.
C'est fou, hein. Merci Antoine pour ce crash test passionnant et c'est avec donc ce crash test que se termine cet atelier numérique. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Très bonne semaine. On sera là samedi prochain.
BFM Week-end.